Chapitre 15e. L'attitude qu'Hélène avait adoptée avec M. de Courtemer et Guiscard était la réserve, une réserve extrême. Respectueuse avec le père, froide avec le fils, elle ne disait pas un mot de trop. On l'interrogeait, elle répondait juste ce qu'il fallait, poliment mais brièvement. On ne lui parlait pas, elle ne disait rien, et jamais elle ne prenait la parole que lorsque cela était indispensable. Au contraire, avec Adélaïde, elle était affectueuse, affable, disposée à tout ce que l'enfant pouvait désirer, et n'opposant jamais un refus à un jeu ou un amusement. De même, avec Madame de Courtemer, elle était pleine de prévenance, et c'était elle maintenant qui proposait à la marquise des promenades, combinées de telle sorte que celle-ci put toujours les accompagner monter sur son âne, ce qui faisait dire au marquis que cet âne deviendrait sûrement un âne savant, et qu'un jour ou l'autre, on serait tout surpris de l'entendre faire un cours de généalogie. C'était en riant que M. de Courtemer plaisantait ainsi, mais il n'y avait pas besoin d'être un bien fin observateur pour voir qu'il n'avait réellement pas envie de rire et que ses sorties de la marquise avec Hélène le contrariaient, au contraire, très vivement. En effet, avec les précautions dont Hélène s'entourait lorsqu'elle était au château, il était impossible de l'entretenir, et c'eût été seulement pendant ses promenades qu'on eût pu lui parler en profitant des courts instants où Adélaïde courait en avant ou bien restait en arrière. À chaque instant, il est vrai, le marquis et Guiscard entraient dans la salle d'études, le père pour prendre un de ses canons sylvestres, dont il faisait maintenant une consommation extraordinaire, le fils pour venir chercher un livre bleu, vert, jaune, noir, gris, dont il avait maintenant besoin chaque jour. Mais si cela leur donnait l'occasion de voir Hélène, c'était tout. Celle-ci ne parlait pas, et il était impossible de lui rien dire devant Adélaïde, qui les regardait l'un et l'autre avec des yeux étonnés, tandis qu'Hélène ne levait même pas la tête de dessus le livre ou le devoir qui l'occupait. Plusieurs fois, le marquis avait essayé de la faire causer, mais elle avait toujours répondu si courtement qu'il avait dû abandonner la place. De son côté aussi, Guiscard avait employé le même moyen, mais sans être plus heureux, et comme il avait voulu insister, elle l'avait prié de ne pas la déranger pendant l'heure des leçons. Cela avait été dit poliment, mais avec assez de fermeté pour qu'il n'osât pas insister. Repoussé de ce côté, Guiscard ne s'était pas tenu pour battu, et mis en quelque sorte à la porte de la salle d'études, il avait trouvé un autre moyen pour voir Hélène, mais de loin, hélas, sans pouvoir lui parler. Seulement il la voyait, elle le voyait aussi, et ce qui pour lui était décisif dans toute sa gloire. Bien que M. de Courtemer, par suite du mauvais état de ses affaires, n'eût plus l'écurie de course qu'il avait entretenue autrefois, il avait encore deux ou trois chevaux de steeplechase qu'il faisait entraîner sous sa direction et qui travaillaient sur une piste aménagée dans son parc autour du château. Si Guiscard n'avait jamais rien pu apprendre avec son abbé ni avec le père Bonjean, par contre, il avait admirablement profité des leçons et des exemples que les lades et les jockeys de son père lui avaient donnés. Et malgré sa corpulence, il était devenu un excellent jockey, non un professionnel, comme on dit en langage de sport, mais un amateur capable d'en remontrer aux meilleurs jockeys, surtout dans les courses à obstacles, les seules d'ailleurs que son poids lui permit. Expulsé de la salle d'études et désireux de voir Hélène, non moins que de se faire voir par elle, il avait pour cela tiré parti de tout ce qu'il savait. La piste d'entraînement passait dans la prairie, devant les fenêtres de la salle d'études. À l'endroit même où devaient se porter les regards des personnes qui se trouvaient dans cette salle, il avait fait aménager un nouvel obstacle, une banquette irlandaise, qui exige pour être franchie un certain travail. Et chaque matin, au moment où Hélène commençait la leçon, il était venu exercer ses jeunes chevaux sur cet obstacle, les montant lui-même et les faisant travailler les uns après les autres. Comment, de la fenêtre où elle était assise, ne l'eût-elle pas regardé lorsqu'il abordait l'obstacle, bien en selle, tenant son cheval droit jusqu'au moment où il l'enlevait, et quand il descendait, se penchant en arrière sans lui relever la tête, ainsi que le ferait un mauvais cavalier? Elle devait être sensible à son mérite et aussi à la crânerie avec laquelle il montait, et à son élégance et à son savoir. Chic, vraiment très chic. Il se trompait en s'imaginant qu'Hélène ne pouvait pas ne pas le regarder. Mais la vérité était cependant qu'elle ne pouvait pas ne pas le voir lorsqu'il traversait la prairie, passant comme une ombre sur le fond de verdure pâle. La persistance qu'il mettait à ce travail, de même que la disposition de ce nouvel obstacle, ne pouvait pas laisser de doute à Hélène sur ses intentions. C'était pour elle qu'il se livrait à ces exercices plus ou moins dangereux pour l'éblouir et la fasciner. Mais comme elle était parfaitement rassurée de ce côté et qu'à l'avance, elle savait qu'elle ne se laisserait ni éblouir ni fasciner par M. le comte de Guiscard de Courtomer, elle n'avait point à s'inquiéter de ses cavalcades. Malheureusement, elle ne pouvait pas procéder de même avec M. de Courtomer, n'étant jamais sûre qu'une surprise ne se produirait pas. « Qu'avez-vous donc ?» lui demandait souvent Mme de Courtomer en voyant son effarement. « Rien. » La marquise n'insistait pas, mais elle la regardait, et il semblait à Hélène qu'elle regardait aussi Guiscard comme pour lire en lui. « Pourquoi donc ne voulez-vous jamais me laisser aller plus loin que le bout de votre bras ?» demandait quelquefois Adélaïde. « Je ne me perdrai pas. C'est mon devoir d'être toujours près de vous, mon enfant. » C'était là pour elle des avertissements qui lui conseillaient de ne pas pousser ses précautions trop loin, car alors elle devenait elle-même un danger. Puisqu'elle pouvait montrer à M. de Courtemer et à Guiscard qu'elle les comprenait et qu'elle les craignait. Mais comment trouver la juste mesure de ce qu'il fallait et de ce qu'il ne fallait pas? Sans doute elle était décidée à se défendre si l'un ou l'autre parlait, mais combien vaudrait-il mieux qu'il ne parlât point? Elle se disait que si les choses continuaient ainsi, il n'y avait pas de raison pour qu'elles ne continuassent pas toujours. Ils auraient réfléchi, ils auraient vu ce qu'elle était, et les idées qui leur avaient passé par l'esprit disparaîtraient pour ne plus revenir. Un matin que M. de Courtemer et Guiscard devaient être absents pour toute la journée, elle demanda à la marquise la permission d'aller à Condé, et cette permission lui ayant été accordée, elle partit tout heureuse. Ce fut joyeusement qu'elle se mit en route pour rentrer au château. Elle venait de voir sa grand-mère, qu'elle avait trouvée en bonne santé, pleine de courage et d'espérance. Le temps était radieux, le soir se faisait dans un ciel d'or, et c'était plaisir de marcher librement au milieu de ce chemin vert qui lui avait paru si joli lorsqu'elle l'avait suivi pour la première fois avec le père Bonjean et qui, maintenant que le printemps avait achevé son œuvre sur ce sol gras, à l'humus profond, continuellement mouillé par des eaux courantes, était plus joli encore, ou tout au moins plus riche, plus splendide de végétation avec ses herbes foisonnantes, ses nénuphars fleuris, ses iris dorés et sa moisson d'herbes et de plantes qui semblait vouloir tout envahir, le cours des ruisseaux aussi bien que le gravier de la route. Tout cela, si vert, si frais et si jeune, était doux aux yeux, doux à l'esprit, doux aux poumons qui s'emplissaient d'un air vivifiant. Tout à coup, à une courte distance, une ombre noire lui barra le chemin, allongée sur le gravier par les rayons obliques du soleil couchant. M. de Courtemer était devant elle.